c'est la, mais c'est ça la fondation CDCL. Bien, est-ce que vous voulez encore la parole pour des questions et donc et puis ce serait le deuxième tour parce que un peu plus fort s'il vous plaît. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Bien, écoutez, je dois quand même préciser, d'accord pour le recouvrement, et d'accord aussi pour le souvenir que la faute a existé, mais ça va beaucoup plus loin. Un verset dit, « Yeboukash het Israël venenu », on cherchera la faute, elle n'est plus là, elle est née, il n'y en a plus. Le repentir revirginise la conscience. Et si nous avions le temps, alors nous partirions précisément de Kippour. En ce sens que, la Torah est donnée, mais avec la clause que le repentir est possible. Et c'est pourquoi à chaque instant du comportement, il y a intégrité de la conscience, si la conduite du repentir est sincère. Et il n'y a aucunement angoisse, il n'y a aucunement perdition, il n'y a aucunement damnation. J'ai très souvent eu l'impression, dans mes études de ces problèmes, que Saint Paul, comme disent les chrétiens, eh bien, ne parle pas de la loi juive. Il parle d'une loi que nous considérons comme étant beaucoup plus romaine, grec que juif. On dit souvent que Saint Paul était un talmudiste. Et je ne crois pas, mais alors pas du tout. Et parce que le Talmud que cite Saint Paul, ce n'est pas le nôtre. Nous ne nous y reconnaissons pas du tout. Je le dirais un peu de cette manière. Et je crois qu'il y a eu une irruption dans la conscience du premier chrétien. C'était aussi peut-être le drame personnel de Saint Paul, qui lui, j'admets que c'est un personnage historique, et qui est très exemplaire de beaucoup de juifs hellénisants de ce temps. Et qu'on parle d'une loi qui serait l'ensemble de principes impersonnels. Monstrueux, c'est monstrueux si nous sommes mesurés à l'impersonnel, lorsque nous sommes mesurés à la loi. C'est un monstre, parce que cette loi est impitoyable si elle n'est qu'impersonnelle. Pour les juifs, la loi, c'est la volonté de quelqu'un. Et c'est avec ce quelqu'un que nous sommes en relation lorsque nous sommes en relation avec la loi. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que dès le début, il y a un malentendu. Le juif dont parle l'évangile, c'est pas un juif. C'est un peut-être un homme d'origine judéenne, mais complètement assimilé à la conscience grecque ou chrétienne, en tout cas de la loi, sur ce point dont nous parlons, et aussi pour d'autres dimensions. Et qu'il y a, je dirais, monsieur le pasteur, nous sommes dans un temps où il est urgent de nous parler vraiment. Parce qu'au fond, nous ne nous sommes jamais parlé depuis 2000 ans, alors on a beaucoup de choses à dire. Et par exemple, les chrétiens sont convaincus de bonne foi pendant 2000 ans et 2000 ans après qu'au fond, les juifs ne savent pas lire la Bible, leur Bible. Et qu'il faut le guide de la conscience chrétienne. J'emploie de nouveau conscience, mais je devrais dire expérience chrétienne, pour savoir lire vraiment la Bible. Laissez-moi vous dire, monsieur le pasteur, à quel point nous sommes convaincus que c'est l'inverse. C'est que les chrétiens ne savent pas toujours lire les évangiles, et qu'il faut le décryptage juif pour voir vraiment de quoi il s'agit. Je parle des évangiles. Peut-être que nous prendrons, pour la table ronde de dimanche après-midi, un petit exemple qui serait intéressant d'analyser réciproquement. Mais j'en profite, vous me permettez, ça dépasse l'objet de ce séminaire au collège, ici à Rachi, que je crois que il serait nécessaire qu'un jour, des théologiens chrétiens et des théologiens juifs s'enferment en privé, pas dans la démagogie des meetings de la place publique des amitiés judéo-chrétiennes, etc., et avec comme outil d'étude toutes les langues qui sont nécessaires pour comprendre vraiment de quoi on parle lorsqu'on parle de ces choses dont on parle. C'est-à-dire au minimum les quatre langues fondamentales de l'hébreu et de l'araméen, du grec et du latin, plus une langue de communication, pourquoi pas le français. Parce que tant que nous ne reprenons pas nos catégories intellectuelles et verbales, eh bien nous véhiculons des faux problèmes, des malentendus. Le fossé qu'il y a entre ces deux approches est réel, mais qu'au moins nous sachions de quoi il s'agit vraiment et réellement. Et là je crois que très certainement il y aurait un enrichissement réciproque, en ce sens que je reviens au point de tout à l'heure, il n'y a pas de doute, et c'est cela d'abord qu'il faut élucider, que la rupture a été nationale. Les rabbins ont considéré que les premiers judéo-chrétiens ont quitté le peuple d'Israël, non pas tellement, premièrement, d'abord à cause de leur croyance. C'était des midrashim qu'on aurait pu arranger. Hein? Mais lorsqu'il y a eu rupture nationale. Et alors, ce sont les causes profondes de cette rupture qu'il faudrait d'abord étudier, premièrement. Hein? Et ensuite, voir si, précisément, il n'y a pas une... Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas un chemin qui avait été amorcé, mais qui a été arrêté par un mythe de substitution. Et on dit souvent que entre christianisme et judaïsme, c'est la rivalité de deux Israël. Peut-être y a-t-il là un malentendu. Peut-être s'agit-il en réalité non pas de la rivalité de deux Israël, mais de la rivalité de deux diasporas d'Israël différentes. L'une, la juive, qui restait fidèle à l'identité hébraïque, et l'autre qui a changé de véhicule humain et qui a opté pour la réalité gréco-romaine, plus que culturelle, plus profondément ethnique. Et que, pourquoi le problème est urgent et grave pour juifs et pour chrétiens? D'abord parce que nous sommes confrontés dans le monde contemporain à des problèmes similaires. Et que nous ne pouvons pas avoir une politique de cheminement ensemble sur les graves interpellations morales et sociales si nous n'avons pas d'abord élucidé notre fossé théologique. Et d'autre part, à cause du fait Israël. Parce que tant la diaspora juive que la diaspora chrétienne sont interpellées par le fait Israël. Je parle d'Israël, de l'État d'Israël. Et si l'histoire a dévoilé que c'est bien le peuple juif en Israël qui est Israël, alors nous savons que la conscience chrétienne est interpellée, excusez-moi du mot conscience, mais est interpellée. Si c'est le peuple juif qui est Israël de l'histoire, alors l'Église, les Églises sont quoi? Nous comprenons la gravité de ce problème et qui grève, qui handicape les rapports de nos communautés. Mais d'une façon très différente, mais en fin de compte assez analogue, la diaspora juive est aussi interpellée par la même interrogation, un tout autre régime. Et alors je crains que les tentatives de dialogue et de rapprochement entre juifs et chrétiens de diaspora, de ces deux diasporas d'Israël, ne soient faussées tant que, dangereusement d'ailleurs, tant que notre véritable différence théologique n'est pas élucidée, parce qu'il est bien évident que ce que les premiers chrétiens ont voulu dire en parlant du Christ dont ils parlent, ce n'était pas du tout de quelqu'un qui est venu intervenir dans les petits problèmes de psychologie sociale des religions. Vous comprenez ? Bien. Et par conséquent, voilà un peu l'indication que je voulais donner. Dans les questions qui vous ont été posées, monsieur le pasteur ne voyait pas du tout de l'irritation de ne pas arriver à comprendre comment vous vous arrangez avec vos mystères, parce que nous entendons des contradictions perpétuelles. Vous permettez mais tout simplement une soif d'essayer de trouver le chemin où nous pourrions nous parler. Et pour ça, il faut avoir un langage commun. Et c'est compliqué, parce qu'il faudra que nous apprenions ensemble le grec, l'hébreu, l'araméen, le grec. Moi, je suis prêt, si vous voulez, à étudier un chapitre des évangiles en grec avec un théologien chrétien, à une condition, qu'il étudie avec moi quatre lignes de Talmud en araméen, pas plus. Vous comprenez le problème. Et il faudrait s'enfermer pendant 3 mois et demi, peu importe. Vous enverrez des oranges, pas des fleurs. Mais je voulais dire encore une dernière phrase de conclusion, mais enfin je crois que là a été l'essentiel, et nous reprendrons, je pense, avec beaucoup de profit ce dialogue pour déjà dimanche après-midi. Je souhaite vraiment que ce soit le point de départ d'autre chose. Et je vous laisse la conclusion de cette analyse. Vous avez encore à répondre à certaines remarques, mais sachez que j'étais très heureux d'avoir eu le privilège de vous souhaiter la bienvenue chez vous ici à Paris pour ces problèmes.
Merci. Et je vais juste dire quelques mots, mais très rapides. D'abord, je me réjouis qu'on se retrouve dimanche, et je crois que ça serait intéressant si on peut prendre quelques exemples concrets. Hein.
Oui. Je ne sais pas si on lira en araméen, mais enfin...
Non, je traduirai, je traduirai.
Mais... alors, j'ai essayé de répondre quand même honnêtement à quelque chose qui m'a été posé, mais très vite. Puisque l'époque actuelle n'est pas une époque où il n'y a pas de guerre, qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien que le messianisme est arrivé ? Alors, je crois que la réponse que dira un chrétien, c'est que Jésus... La réponse classique, hein, c'est de dire Jésus, c'était l'inauguration des temps messianiques, sa résurrection, c'est le commencement des temps messianiques, mais maintenant, nous sommes dans un moment où il y a eu une apparition, on pourrait dire, de ce que sera le temps messianique, mais il n'y a pas la réalisation. C'est pourquoi nous sommes, comme les Juifs, encore en attente d'un temps messianique qui n'est pas en plénitude. Enfin, le temps actuel est un temps où nous... C'est quand on célèbre, voilà, ce que dit la Sainte Cène ou n'importe quoi, nous disons en mémoire et en attente, hein, nous sommes dans l'entretemps, mais nous ne sommes pas, évidemment, dans la plénitude de réalisation des temps messianiques. Hein. La seconde chose... J'étais très sensible à votre affaire que quand on aime une femme, il faut lui donner des fleurs. Ou que quand un chrétien dit « je veux sanctifier le dimanche », il faut que ça représente quelque chose de concret pour lui. Alors, je ne vais pas décrire... Moi, je crois que quand on fait quelque chose en esprit, qu'on ne le fait pas encore, on ne le fait pas. Il faut que c'est évident que les choses doivent prendre une dimension concrète. Il faudrait une fois faire un truc très concret, dire qu'est-ce que c'est pour vous que célébrer le Shabbat, qu'est-ce que c'est pour nous que sanctifier le dimanche, puis on compare. Hein. Mais je crois beaucoup aux choses concrètes, à la condition, bien sûr, qu'aucun d'entre nous ne se dise, puisque j'observe un certain nombre de règles, eh ben je suis en paix avec Dieu. Enfin, je veux dire, la sanctification, c'est pas uniquement, c'est les choses concrètes vécues dans son cœur et dans son esprit, et dans son corps aussi. Alors, il y a une question qui me captive. Moi, je me demande, effectivement, en sortant de ce soir, si je ne suis pas plus sadducéen que pharisien. Ça, c'est une énorme question. Parce que je me dis, si au fond, le pharisaïsme, ça n'est pas comme le sadducéisme, de regarder ce que dit l'Écriture, mais d'écouter ce que dit la tradition, ça pose un gros problème. Parce que quand même, hein, je pensais être beaucoup plus proche des pharisiens par le côté d'exigence. Mais je me dis, le fondement scripturaire, quand même, c'est fondamental.
Il y a des gros problèmes. Vous êtes protestant et non catholique.
Oui, peut-être. Alors, les catholiques seraient pharisiens et nous serions sadducéens.
Je le pense. Je le
peut-être.
Pense.
C'est intéressant.
Mais nous donnons rendez-vous dimanche.
Ah,
nous
allons
rendez-vous dimanche. Du Shabbat.
Ouais. Et enfin, la dernière remarque, je la mettrai là-dessus. C'est pas pour... Vous dites que ça a été avant tout une rupture nationale.
avec tout ce que cela implique d'après l'histoire de la Bible.
À mes yeux, c'est sûrement quand même une rupture sur l'identité de Jésus-Christ. Vous me dites, Jésus-Christ n'a pas existé comme figure historique. C'est une expression. La figure historique, c'est pas tellement là-dessus que je me battrai. Mais vous vous rappelez cette conférence que j'avais justement où vous étiez avec vous. Moi, j'avais dit au fond, Jésus-Christ, on peut lui donner trois mots. Phénoménologiquement ou factuellement, c'est un prétendant. Les uns peuvent dire c'est un prétentieux ou un prétendu. Et les autres peuvent dire ce prétendant a tenu ce qu'il prétendait. C'est quand même là-dessus qu'il y a un énorme... Mais, ce que je veux dire, je suis convaincu que les questions nationales jouent un rôle énorme. Mais je suis convaincu que notre honneur à vous comme à moi, comme à nous, c'est de nous dire que ça n'a pas été qu'un malentendu national, mais que c'est un problème de confession. Comment confessons-nous? Alors, je ne veux pas faire de Jésus-latrie, pas du tout. Mais c'est sûr que le problème, il continue à demeurer autour de son identité, de ce qui, aux yeux des uns, est un prétendant que la foi croit vrai et que les autres pensent être un prétendu sympathique, mais qui n'est pas vrai. Il y a un problème. C'est évident qu'il y a un problème.
Nous en parlerons.
On en parlera dimanche. Voilà.
Merci.
Vous donner quelques phrases d'introduction à ce texte, par le service de l'institution. Je me rappelle que avant qu'on se mette une dernière précision du séminaire de M. Prince, il a oublié de vous dire en conclusion hier, rappelez-le-moi, et puis ça me permettra de vous donner aussi une conclusion que je n'ai pas pu vous donner hier soir moi-même, puisque j'étais appelé à ce moment-là, pour le texte d'hier soir. Bien, vous souvenez, je me raccroche maintenant sur l'écran de tout ce que nous avons vu. Je me raccroche maintenant au texte du Talmud que nous avons étudié. Laissez-le plutôt là-bas, en fait. Que nous avons étudié, donc, mercredi matin. Nous avons étudié mercredi matin un texte du Talmud de la Maseret Brachot qui nous montre que, dès que la sortie d'Égypte nous est annoncée, décrite, enseignée, eh bien, elle nous renvoie à la Géoula de la fin des temps. C'est bien clair. Vous vous rappelez de cela? Bon. On ne le dira plus, Chay Hashem, Asher Ela, et Israël Meret Misraï, mais Chay Hashem, Asher Ela, et Evi, et Zer Arbet Israël, mi Eret Safrona, mi Kola Ratou. Ça, c'est la Gemara de Brachot. Alors, dans la Gemara de Sanhedrin, et je vous rappelle, vous savez, c'est la Gemara, donc cette étude a été faite dans l'académie rabbinique pharisienne talmudique, il y a plus de 2000 ans. Dans la Gemara de Sanhedrin, parlant, les rabbins entre eux, parlant, de ce que seront les péripéties de la Géoula de la fin des temps, sont pris de panique et semblent vouloir nous transmettre comme avertissement cette panique, si j'ose dire. Et voici quelle est la phrase de départ que vous allez prendre là où c'est Amaroula, là où c'est indiqué. C'est la septième ligne au milieu. On vous a indiqué un simage. C'est Amaroula. Oula, je n'entre pas dans les détails bibliographiques des réductions, mais nous allons suivre le texte qui contient deux parties. Vous me rappellerez de. J'ai un coup de téléphone à donner au milieu, je risque d'oublier. Alors, Amaroula. Oula est un très grand enseignant de la tradition, au point qu'on ne dit pas Rabbi Oula. Hein? Vous connaissez la règle. Quand quelqu'un est très grand, on ne lui donne aucun titre. Amar Oula, Oula enseigne, Yeti Velo Ahmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Vous voyez tout de suite avec là. Qu'il vienne, qui, le Mashiach, bien sûr, le Mashiach de la Géoula Ahawana, qu'il vienne et que je n'ai pas à être là pour le voir. Alors, essayons de réfléchir, c'est énorme. Hein? Quelle est cette harada, quelle est cette crainte, quelle est cette terreur qui prend les rabbins dès qu'ils touchent à ce problème, dès qu'ils touchent à ce problème. Il dit « Yeti velo ahmine ». C'était de l'araméen, mais je vous traduis directement sans passer par l'hébreu, c'est pas nécessaire. Alors que Rav Yosef lui répond « Où suis-je ?»
Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef lui a dit, Yeti, Veaske, de Eti, Betula, de Kufita, de Hamre, qu'il y aime et que je puisse mériter de me tenir à l'ombre des excréments de son âne. Vous voyez le contraste. L'âne dit qu'il vienne, mais que je ne le vois pas. Il se passera des choses terribles. Retenez toutes les questions, même informulées. Pourquoi il se passera des choses terribles et pourquoi on craint qu'il se passe des choses terribles. Alors que Rabbi Yosef dit, non, qu'il vienne, et puis quel que soit ce par quoi il faudra passer, que je puisse avoir ce mérite-là de me tenir à l'ombre de l'excrément de son âme. Je n'ai pas besoin de vous dire, je vais me baser sur énormément de j'allais dire commentateurs, mais c'est beaucoup plus que ça, de déchiffreurs, des fricheurs de ce texte, et en particulier la Chita du Maharal. Ceci a été enseigné chez le Maharal, dans le Netzar Israël. Voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si nous avons étudié ce texte-là. J'ai dans ma mémoire des échos. Bon, c'est peut-être ailleurs. Donc, peut-être je vous l'ai cité dans un autre. Matzavem, eh bien ça y est, on l'a trouvé. Bon, ça fait rien. Pourquoi celui-là serait là et celui-là là-bas hein? Et au moment de la Géoula Harona, de la délivrance dernière, alors, c'est le temps de la délivrance totale, c'est-à-dire pas seulement de ce à quoi nous sommes déjà habitués par apprentissage, si vous voulez, à commémorer une délivrance sociopolitique de l'aliénation de ce qui s'appelle l'esclavage d'Égypte, que nous appelons la galoute. Okay? Mais ceci est encore que la surface d'un processus de libération totale de la créature, de sa condition d'aliénation dans la détermination de ce monde-ci. Vous vous rappelez ce qu'a cité le qui était là hier soir? Vous êtes bien marré, hein? Mais, vous voyez pourquoi tu l'es passé en Mibaro chez leur Asamiko? Il faut les aider, c'est ça. Et alors, le pasteur a cité, c'est un homme charmant, d'ailleurs. Il a cité qu'il faut sortir d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Vous vous rappelez de cela? Ils avaient envie de dire Ashmer al-Oznecha Machatamotim et Picha. Et alors, mais ceci n'est que pas le symbole, c'est plus que ça, mais que la surface de la Géoula, de la condition de créature, mise dans la condition de Olam Hazeh, ce monde-ci, de l'histoire que nous vivons, en apprentissage du mérite d'être vraiment. Et nous serons accompagnés par ce problème. Il y a tout le temps donné en sursis. Et si le mérite est suffisant, cette libération vient dès que le mérite est là. Et sinon, il y a un processus que dirige la Providence. Et en fin de compte, cette libération se fera. Et quel aura été le mérite? Le mérite d'être celui que Dieu a créé pour qu'il soit méritant d'être. Il aura suffi d'être né pour avoir été sauvé. Et pas besoin d'une grâce magique. Vous voyez à peu près le problème. C'est clair. Bon. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à toute la législation sur l'esclave hébreu. Le Eved Ivri. Hein? Si le Eved Ivri peut se racheter, dès qu'il se rachète, on le libère. Okay? Sinon, la Torah prévoit, la septième année, tu le libères. Oui? Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est libéré. C'est-à-dire, ce sera la vertu des 6 ans d'esclavage qui fera qu'à la septième, il est libéré. Et s'il ne veut pas, alors il sera esclave ad olam, c'est-à-dire jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin de la galoute, jusqu'à l'aboutissement. Vous voyez la correspondance, et là encore je me réfère au Rahaïm, les 6 années de l'esclavage, la 7e année de la libération, correspondant aux 6000 ans de l'histoire, et la 7e année la libération. Et comme vous le savez, nous sommes déjà arrivés selon le calendrier hébraïque, moi je vous invente rien, okay? C'est pas de l'actualité, c'est de l'éternité. Okay? À l'année 5740, déjà cette année, ça va vite, hein? Top. Alors, Erev Shabbat, on est déjà rentré dans Erev Shabbat. Ceux qui le veulent, qui le peuvent, tout le monde peut essayer, étudier attentivement, en particulier le Zohar Haïm, surtout le début de la parasha de Mishpatim. Vélea Mishpatim, Hachatasim Ishneem, Ki Tikne Eved Ivri, Shesh Shamim Yavod, Vachevi, et Tserachop Shechinab. Et s'il dit, ah non, je ne veux pas, j'aime mon maître, j'aime ma femme, on verra de quel maître, de quelle femme il s'agit, déjà dans ce texte. Bon, alors tu lui trouves à l'oreille qui a entendu, je suis celui qui t'est fait sortir de la maison des esclaves, cette oreille-là qui a entendu ça, C'est elle qui veut s'aliéner, tu la lui trouves à la Mezouza, au moins, tu auras cheval fait. Et puis, et dans tous les cas, au jubilé. Alors là, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il sera libre. C'est-à-dire là, le temps fera. Le fait que le temps est arrivé fera qu'il sera capable d'être libéré. Par exemple, le fait que c'est à 13 ans qu'on devient bar mitzvah. Pourquoi on ne peut pas devenir avant? Parce que le temps n'est pas arrivé. Quand le temps arrive, alors à 13 ans, on est bar mitzvah par le temps, par le moment. Si on est pubère avant, le mérite, alors on est bar mitzvah le jour où on est pubère. Vous voyez ce que j'ai cité là. Faites bien attention, et peut-être c'est pas par hasard. Je voulais vous expliquer ce din que je viens de citer. Chez le Sfaradim, la bar mitzvah, c'est le jour de la puberté. Bon. Alors que les Ashkenazim ont préféré, et la source est dans le Talmud d'ailleurs pour les Ashkenazim, ont préféré fixer le temps légal pour tous, que c'est 13 ans et un jour. Bon, maintenant ici on est en pays Ashkenaz, il faut faire comme la coutume du pays. Si le Beddin vous dit non, 13 ans et un jour, sinon je dois, faites comme le Beddin du pays. Mais quel est le sens profond de la halakha? C'est qu'à partir du moment où un enfant est capable de donner la vie, c'est là qu'il est majeur. Il y a la différence entre la définition de la majorité dans la tradition juive et dans la société générale. Dans la société générale, c'est à partir du moment où un enfant peut faire son service militaire, c'est-à-dire enlever la vie d'un autre, qu'on dit les majeurs. Bien, bon, ça c'est tout un problème pour lui-même. Non, c'est pas dans ça. Non. Que Mishpat Habanot Yaasela. Ça c'est. Non, c'est pas dans. Attends, je me rappelle. Non, c'est dans Kitetzel Amichama. Peut-être, si tu veux, on vérifiera tout à l'heure. Mais ça veut dire, là, c'est le cas d'une Ama Ivria, pas Eved Ivri. C'est le cas de l'esclave femme, l'Ama Ivria. Et quand elle arrive, elle, à l'âge de sa puberté, le maître doit l'épouser. Et s'il ne l'épouse pas, il doit la faire épouser par son fils. Et dans ce cas, il ne faut pas croire qu'elle n'a pas le même statut qu'une autre femme. Mishpat Habanot, ça veut dire... Parce que là, il y a encore... On parle de tout à la fois, mais c'est pas grave, c'est Torah. Quelque chose de très important. Selon la Torah, ça n'existe pas qu'une femme travaille chez un homme, secrétaire médical ou n'importe quoi, si ce n'est pas en vue de mariage. Vous voyez, on ne triche pas avec la Torah. Okay? Ça veut dire le fait qu'on ait engagé une femme, c'est que ça veut dire qu'on lui a promis mariage. Or là, il s'agit qu'elle a été engagée avant sa puberté. Alors le jour de sa puberté, il doit la marier. Et s'il ne la marie pas à lui, son fils. Et si le fils, et qui d'ailleurs elle ne veut pas, ni le père ni le fils, alors il risque d'esprit. Et si elle ne veut pas le mariage, alors le patron doit lui donner une dot. Okay? Et c'est ça que Mishpat Habanot. Vous voyez que la législation de la Torah, on ne la connaît pas toujours comme elle est. Okay? Bon, alors on revient au problème. De quoi je parlais pour arriver là?
L'analogie entre le...
Ah oui. Non, le fait que la Géoula de la fin des temps, c'est la Géoula totale. Et elle arrivera en son temps. Si on la mérite avant, très bien. Si, Zaha, Hishena, Bimhera, Yamenu. Okay? Pendant tous ces 2000 ans, qu'on a appelé les 2000 ans de Yemot HaMashiach, le lendemain de la destruction du temple, on pouvait déjà commencer à mériter le temps messianique. Et l'autre derrière, c'est que s'il n'y a pas de mérite suffisant, alors ça viendra en son temps. Et c'est la vertu du moment qui fera qu'on sera méritant d'être libéré. D'où vient ce mérite? Du début de l'histoire du monde, que c'est nous que Dieu a voulu créer. Vous voyez, c'est clair? Bon. Et nos maîtres nous disent cela. Dans ce projet de mériter d'être, il n'y a que deux voies possibles. La Torah, elle est mise de côté, c'est le bonheur. Ou la vie, l'existence, et à coup de... Mais dans tous les cas, on arrive au but. Alors, comme ça que commence cette somme. Asheré Aïch, Asher lo alar ba'asat keshaï. Heureux l'homme qui n'a pas choisi la voie des Issourim, qui im betorat Hashem chetzo, il a choisi la voie de la Torah, heureux. Ça y est, c'est clair? Mais je voudrais vous dire quelque chose d'un peu rassurant, si vous voulez. Dans tous les cas, tout le monde sera sauvé. Mais parce que le bon Dieu ne joue pas au bout. Mais quelles sont les deux voies du mérite de ce salut? La Torah, elle est mise haute. Et alors déjà dans ce monde-ci, on vit comme si on était dans le monde à venir. C'est ça la joie de la Torah. Ou bien alors l'existence. Et l'existence, c'est Dieu préserve. Oui, c'est les souris. Vous voyez, c'est clair. Mais dans un temps de deux décans, on donne rendez-vous au jugement dernier et on verra qui se fera pardonner. Oui, oui. Bon, on revient au problème. Alors, peut-être que je vais déjà indiquer cela. Alors que ces deux voix devraient nous accompagner pendant tout le temps de l'histoire, on voit que très rapidement les rabbins diagnostiquent que finalement c'est la deuxième qui sera prise. Vous avez compris ce que je dis. Et ils vont chercher à la et on va essayer de comprendre pourquoi ils sont affolés. Maintenant, nous savons pourquoi ils étaient affolés. Ils pensaient à notre temps, et vous savez d'où on sort, et où on va peut-être, enfin, que Dieu préserve. Vous voyez ce que je veux dire. Et tout se passe comme si ils ont vu. En fin de compte, Israël choisira la deuxième voie, celle de la loi des temps. Et alors, bien qu'on continue à enseigner, qu'il y avait l'autre, celle du mérite. Hayom im bekolot ishmaou. Aujourd'hui même, si vous arrivez à écouter sa voix. Okay, vous comprenez le problème. Quand on demande à lire un avis, quand est-ce qu'il vient? Alors, vous savez qui c'est, lire un avis. Subitement, on peut lui poser une question. Quand est-ce qu'il vient? C'est notre problème. Et il répond, aujourd'hui, si tu m'aides. Il n'y a pas d'autre mystère. Cette voie est enseignée. Mais finalement, nous allons voir que les rabbins ont diagnostiqué que malheureusement, le peuple juif se dirige vers l'autre voie, c'est-à-dire qu'il faudra attendre la fin des temps. Et c'est pourquoi on a interdit de faire les comptes, de donner des nombres, des chiffres, quand c'est la fin des temps. Parce que si, par exemple, il y a 1500 ans, on avait demandé au rabbin, alors quand c'est la fin des temps? Il nous aurait dit, dans 1500 ans, qui c'est qui aurait attendu? Okay. Alors, vous savez comment les rabbins ont fait l'année prochaine. Les Shanaaba, les Shanaaba, les Shanaaba. Et l'année prochaine, en l'année prochaine, on est arrivé à Jérusalem. On en a mis 2000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette stratégie vertigineuse et qui a réussi. Okay. Mais imaginez l'énorme patience des rabbins qui savaient et qui se sont tus pendant 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire la date. Ils savaient très bien qu'ils envoyaient tous leurs juifs en enfer. Ils disaient qu'il y aura. Imaginez, ils disaient, ah, ben, vous attendrez Yom HaTzmaout. Yom HaTzmaout, c'est quand? Eh bien, d'ailleurs, c'est quand Yom HaTzmaout? Hein? Et Iyar, vous ne savez pas dire, le 6 Iyar, non? Les aimés. De l'année 1948, c'est-à-dire 5708. Alors, on leur aurait dit en 3200, 4100, 5708, d'abord, ils ont dit les fous. Et puis, qui c'est qui va attendre? Alors, imaginez cette puissance de silence. Vous comprenez le problème. Ben alors, rassurez-vous, nous savons qu'ils savaient, puisque nous avons leur texte. Non. Et alors, pourquoi cet affolement? C'est ça notre sujet. Ça y est, c'est clair? C'est-à-dire que s'il va s'agir de la fin des temps, par la loi des temps, alors ça va se passer de façon très, très, très difficile, parce que ça va se passer à travers, j'ai pas dit par, mais à travers des processus naturels. Tandis que si ça avait été par le mérite, c'était miraculeux. Subitement s'ouvriront les portes du ciel, disent les textes. Mais c'est les deux voies différentes. Elles ne sont pas en compétition. L'histoire a montré qu'on a choisi la deuxième. Et c'est pourquoi les rabbins étaient affolés de savoir que les juifs choisiraient la deuxième. Alors on va se demander qu'est-ce qu'il y a. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit vraiment de la dernière libération. Je vous ai donné suffisamment de textes pendant le séminaire. Vous vous rappelez du Yalkut Shimoni. Et c'est de la libération totale. Et alors, il y aura transfiguration du monde. C'est-à-dire un processus de mutation du monde qui fera qu'il y aura irruption de spiritualité telle qu'être à l'ombre de la pire des matérialités de ce temps-là, ça sera la lumière. Vous avez compris ce que ça veut dire Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a dit qu'il vienne et que je mérite d'être à l'ombre de l'excrément de son âme. Ça y est, c'est clair. Ça veut dire qu'il y aura une telle joie d'être que, quelles que soient les tribulations par lesquelles il faut passer, ça méritera. Je crois que nous présentons un peu ce qui se passe. Il y a une mutation de la conscience humaine à l'échelle universelle qui annonce une mutation spirituelle. L'épistémologie n'a plus rien à voir avec celle du 19e siècle, qui est aussi différente que celle du 19e siècle pouvait être différente de celle des Australopithèques. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que toute la perception de la réalité se fait à l'échelle universelle dans une mutation de conscience colossale. C'est-à-dire que si la planète ne saute pas, eh bien nous nous dirigeons vers une conscience d'être qui rejettera dans une préhistoire absolument caduque, primitive, si vous voulez, ce qu'ont été les sommets de l'intelligence scientifique du 18e ou du 19e siècle. Et qui passera, passera. Et les autres seront rejetés en arrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et alors, pour aller rapidement, traversée donne l'autre branche du problème. On l'a dit, ça va être terrible. Et nous savons que, ça a été, que c'est terrible. Je me réfère à tous ces événements inouïs qui se passent dans le monde depuis la guerre de 70, où le monde s'entretue, où les choses les plus inouïes peuvent arriver. Et puis les journalistes font des éditoriaux construits rationnellement sur les événements. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes dans un monde terrifiant. Et c'est ça qu'a vu Ola. Mais Rabiosé nous dit, oui, mais quel est l'enjeu? C'est ceci. Ce qui est le déchet d'un monde supérieur, dans le monde inférieur, devient la lumière. Déchet, c'est quoi? L'excrément de l'âme. L'âme, c'est Hamour. La matière, c'est Homer. C'est-à-dire la plus dégradée des matérialités d'un monde, okay? Ce qui tombe de l'excrément de l'âme dans notre monde, c'est la lumière, puisqu'il y a l'ombre de cela. Okay? La lumière dans un monde. C'est suffisamment clair comme idée. Bon, alors en avant. D'autre part, Amarle Abayé, la suite. Amarle Abayé le rabbin. Maïtama. Abayé a interrogé son maître, rabbin. Maïtama, pourquoi? Pourquoi cette terreur? Pourquoi on peut dire qu'ils viennent et que je ne le vois pas? Vous suivez? Hypothèse. Et Nima, peut-être je peux dire, Mishum Chevloch El Mashiach, à cause de ce que sera les souffrances du Messie. J'avais commencé à exprimer. Il n'y a pas écrit Chevlé Yemot El Mashiach, les souffrances qu'on aura dans les jours du Messie. Mais Chevloch El Mashiach Mamash, et que les souffrances que le Messie souffrira. Vous y êtes? Et après, ça veut dire, il se prend pour le Messie, alors il a peur. Si le Messie, c'est pas lui, eh bien, c'est l'autre qui souffre, le Messie. Pourquoi il a peur des souffrances du Messie? Hypothèse, quelle? Comment vous expliquerez? Pourquoi il a peur de Chevloch El Mashiach?
Normalement, on est solidaires.
Ben, on est tous solidaires. Ça suffit comme explication? Qui peut expliquer? Ce sera, mais en tout cas, ce sera un juif. C'est ça le problème. Oui, non, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce que ça veut dire que. J'ai dit comme ça par hypothèse, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il se prend pour le Mashiach? Alors il a peur de souffrir. Mais oui, c'est les juifs, le Mashiach. Hein? Bravo. Et vous savez, dans la Gemara, dans une autre Gemara, on demande quel est le nom du Mashiach. Et puis alors on propose quatre noms. Okay? Comme par hasard, on dit, à l'école de Rabbi Enzel, il s'appelle un nom qui ressemble beaucoup au nom du rabbin. Et il y a un verset pour ça. À l'école de Rabbi Enzel, on dit un nom qui ressemble beaucoup au nom de ce rabbin-là, mais il y a un verset pour ça. Et après, on dit, oui, bah, Ephéma, et si tu veux, je dirais, il s'appelle Menachem. Et il y a un verset pour ça. Ne pensez pas à Bédine. Bon. Et il va à l'autre de Brooklyn là-bas. Mais, comment bien nous tend des pièges, hein? Alors, ne tombons pas dans les pièges. Ça, c'est les fausses pistes. Faites attention. Bon. Alors, c'est marrant, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et alors, finalement, les commentateurs mettent en évidence que si on prend les initiales de tous les noms qui ont été proposés, on a le mot Mashiach. Même Menachem, Yud, Imen, Shemo, Vechenala. Vous voyez le problème. Alors, il y a ici une clé. Ça veut dire que, bien évidemment, l'identité du Mashiach, c'est la figure de proue du peuple juif. C'est le chef d'Israël, le Mashiach. C'est le roi d'Israël. Et alors, à chaque niveau, eh bien, il y a cette figure de proue. Dans la Yeshiva X, eh bien, il s'appelle comme le Rosh Yeshiva. Dans la Yeshiva Y, il s'appelle comme le Rosh Yeshiva. Nous, il faut s'approcher de ça avec beaucoup d'humour. Nous sommes juifs, nous sommes païens, et pas se prendre au sérieux. Ça y est, c'est clair? Bon, j'ai compris le problème. Finalement, il s'appelle Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Parmi tous les prétendants possibles, vous savez comment il a parlé du prétendu, là, le suspendu, parmi tous les prétendants possibles, celui que le prophète oindra, l'imshoach Mashiach, le oint, et dira c'est toi. Ça y est, c'est clair. Mais ça pourrait être n'importe qui de prétendant possible. Bon, je reviendrai dimanche sur le problème de l'autre là-bas. En vous réexpliquant qu'il s'agit d'un mythe, et que comme vous savez, nous sommes antisémites, on reviendra à ce problème là-bas, mais vous comprenez, il faut être entré dans la santé de la réflexion messianique juive. Enlever tout ce pathos que les pathos nous ont mis dans l'histoire, dès qu'on dit le Messie, alors ça y est, on voit des images, on voit des... Non, les signes qui annoncent que le Messie est possible, c'est les Thomas juifs, c'est Mahane Yehuda, c'est la casquette du policier de Mea Shearim, et les histoires qu'il a avec ses propres pharisiens. Vous voyez, c'est ça, le temps messianique, les signes réels, du temps du rassemblement des exilés et du commencement de ce grand processus de la libération d'Israël qui accompagne l'énorme processus que nous vivons depuis à peu près trois quarts de siècle de la libération, de l'effort de libération du monde entier. Est-ce que vous comprenez que c'est corollaire? Vous vous rappelez de ce que nous avons vu dans notre démarche? Bien, alors en avant. On dit, Maltarma, pour quelle raison tu as peur, tu as tellement peur? À cause des souffrances, des tribulations du Mashiach, suivez, Vehatania, et pourtant n'a-t-il pas été enseigné, deux points ouvrés les guillemets, Sha'alu Talmida avec Rabbi El-Azhar, les élèves de Rabbi El-Azhar ont interrogé leur maître, Maya Ase Adam Vinatsel Michelo Shel Mashiach, que peut faire l'homme pour être sauvé des tribulations du Messie, Ya Asok Batorah Gminut Hasadim, qui s'occupe de Torah et de Gminut Hasadim, c'est-à-dire Midrot et Charité. Mitzvot, pour faire le tikkun, ben Adam le Atzmo, ben Adam la Makom, ben Adam la Havero, Gmilut Hasadim. Chaque expression est un chapitre pour lui-même, mais vous suivez, okay? Nous avons un secret, nous avons une recette. Le monde peut être en folie, mais je ne serai pas atteint par ces Havalim si je suis un homme de la Torah, Gmilut Hasadim. Dehors, il y a l'enfer, mais je sais que moi, je suis dans un monde vrai. Vous comprenez le problème? Et alors, Oumar, et les élèves ont dit à leur maître, Oumar, Ha Torah, ou on peut aussi dire, Abaye a dit à son maître Abba, pourquoi tu as peur? Mais on peut dire aussi, explique-moi pourquoi Oula a peur, mais tout cela c'est la même interrogation. Oumar, He Torah ve'Gmilut Hasadim, et toi notre maître, tu es toi-même la Torah et toi-même la charité, tu as peur? Contradiction, vous avez compris. Nous savons que les Chevre Mashiach, ça peut ne pas être terrible, parce que qu'est-ce qui est terrible? C'est pas tellement la souffrance physique, ça fait 6 000 ans que ça dure, le risque de souffrance physique. C'est le risque de la souffrance morale, de la perception de l'absurde. Vous comprenez? Et alors, si j'ai Torah et Gmilut Hasadim, il peut y avoir catastrophe historique, mais je sais que tout cela, que c'est dans une cohérence, que je vais vers un sens et non pas vers un non-sens. Vous comprenez? Et alors, il nous faut une réponse. Il nous faut une réponse qui nous fait comprendre que bien qu'on ait la Torah, et bien qu'on ait Gmilut Hasadim, on risque de tomber dans ces rêves les machères qui sont épouvantables, au point que la vie qui vienne, parce qu'il faut sauver le monde, mais que je ne le vois pas. Vous vous rendez compte la terreur? Amaré, le maître a répondu, Rabba a répondu à Abaye, Shema, Igrom, Achet. De quoi nous avons peur? De peur, Shema. Alors, là encore une différence. Les Ashkenazim disent Shema, les Sfaradim disent Shema. De peur que Shema, Shema, Igrom, Achet. Que la faute, le Chet, ne soit gorem, ne colle, que même s'il y a le mérite de la Torah et de Gmilut Hasadim, il y aura les Chavalim. De peur que la faute ne contrebalance le mérite. De peur que tout ce mérite de Torah et Gmilut Hasadim ne serve à rien s'il y a la faute. Ça y est, la question est posée. Quelle faute? Habituellement, on l'enseigne d'une manière un peu moussarisante, comment dire, moralisante, et c'est pas faux d'ailleurs, n'importe quelle faute. On s'est trompé de casserole, on a pris une casserole de lait au lieu d'une casserole de... On a dit du mal de la voisine. N'importe quelle petite faute. Hein? Et alors, je voudrais vous raconter un peu sous forme de drache comment le Maguide de Douvna, vous avez entendu parler du Maguide de Douvna, hein? Le Maguide de Douvna a une fois montré que il faut ouvrir les yeux. On accuse les juifs de faute. Il n'y a pas de faute chez les juifs. Il y a des petites bêtises, enfin je veux dire les vrais juifs, hein, et les fautes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un maître d'homme traditif. Hein. Et vous savez qu'on passe son temps à insulter les juifs. Et surtout, qui insulte les juifs, ceux qui leur font la morale. Allez, vous arrêtez-vous. C'est pas un peu exagéré tout ça? Vous voyez, peuple de race, oui, tout ce qu'on peut dire quand on fait un discours de morale. Alors je vais vous raconter d'abord ce qu'il y a dans la Gemara, mais rappelez-moi le Maguide de Douvna. Dans la Gemara, un jour, Dieu, dans la Gemara de Shabbat, interpelle les patriarches. Abraham, ton peuple a fauté. Qu'est-ce qu'il faut faire ?